Ça, ce soir, on soit ravis de retrouver nos services des belles entreprises. Voilà, si vous avez des questions sur la paix, puis après, on va passer au débat lui-même. Des questions sur les paniers, tout ça, donc, très bien. Voilà, de toute façon, tous les renseignements sont sur le site. Ce qui est important, c'est quand même aussi ce lieu, le lieu qu'on peut le Récantou, est issu aussi de toutes les actions de la paix, bien que maintenant, il ne gère pas le lieu. C'est pour ça qu'encore les soirées se passent ici. Et voilà. Donc, on va faire une petite conférence, une petite discussion. Il y aura peut-être un petit débat ensuite. Et puis ensuite, eh bien, vous pourrez vous restaurer avec les propos du point. Alors, je passe au deuxième truc, c'est la présentation de Magide. Alors, il se passe que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais en fait, on se voit quand même relativement peu, mais on se connaît depuis très longtemps, et en fait, on fait partie de la même radio qui s'appelle Canal Sud, où on anime des émissions, une émission littéraire, et moi, bon, je suis comme ça. Alors, tu meurs, bien. Alors, je reprends le texte d'une émission que j'ai consacrée à son livre il y a quelques années, et bon, voilà, c'est juste pour présenter et pour chauffer la salle. Je pense que ça va dans l'intérêt d'un côté. Voilà, c'est surtout que c'est très décalé dans le temps. Alors il y avait quand même un démarrage par une phrase d'Averroès, puisque je participe aussi de toute façon au journal d'Averroès. Il faut pas rejeter une chose bénéfique par nature et par essence sur un texte qui vient en elle accidentellement un inconvénient. Voilà, d'Averroès. Vivre de poésie, de même, de sexe et d'ivresse en tout genre, alors ça oui. Alors ce soir, des tours sur la poésie, poésie proche et pourtant exotique, celle d'un poète, écrivain algérien, des éditeurs de Canal Sud, je connais parce qu'il a mis une édition qui s'appelle Oxymore, c'est le mercredi à 17h, même s'il la déserte un peu en ce moment, mais bon, il va la retrouver très rapidement. Voilà, alors Magide Kao a une voix merveilleuse, vous allez me rendre compte, qui roule comme seul les galets sable froid. Et sa conversation aux circonvolutions aussi sinueuses et denses que ses cheveux faisaient, un peu moins aujourd'hui, mais c'est moins humide, est fascinante, planante, oserais-je dire, et même forte de discrétion, de détails, de notes, d'aparté, de précision, de détours, tellement de détours que parfois on perd son latin. Vous verrez. Je dirais n'importe, puisqu'on ne parle pas latin, que ce compte l'émotion, le plaisir et le souffle. Nous avons une fois partagé une terre d'un côté et de l'autre de l'histoire. Une guerre d'indépendance ou de décolonisation, ça s'appelle. Ça laisse des traces, même s'il est difficile d'être responsable de l'histoire d'avant nous. Je n'ai pas su faire quoi que ce soit de mon histoire, et peu de gens sauront ce que j'en pense. Et aujourd'hui, en plus, comme le dit William Gibson, nous n'avons pas de futur, car notre présent est volatile. C'est en ça que se pose toute l'importance de la poésie de Magide Kao et de son travail critique. À citer ses anthologies de la poésie algérienne, celle d'expression arabe et celle d'expression algérienne. Vous ne vous pas, c'est pas que c'est assez court. Abdel Malik Kawa fait bien sûr partie de la liste de mes amis, même si on se voit peu et même si nous sommes peu vus. Mais il est l'ami universel. Je ne vois aucune raison de passer d'un ami universel. Certains fâcheux diront ça ne veut rien dire, un ami universel. Je le concède, mais rencontrer d'abord Magide. Et après, on en parlera. Alors, je n'ai rien envie de dire sur ces écrits, parce que peut-être que je ne sais pas à quoi en dire. Je pleure, je souris, j'ai peur, je suis rassuré, je me morfonds, j'aime beaucoup, je ris, je me rappelle, je regarde le ciel juste pour regarder le ciel, et je me replonge dans ces mots. ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe des phénomènes morbides les plus variés. C'est là, c'est maintenant, et c'est long, ça va durer, et je suis si fatigué, j'en ai un peu marre. Voilà.
Merci à Bernard pour cette présentation synthétique et très touchante. Et merci à vous d'être là ce soir. Je sais que les sollicitations sont nombreuses. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage en poésie ici. Ce soir au Récoutou, avec bien sûr le soutien de l'association L'Après. Voilà donc, on avait avec Philippe, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, pour des raisons de santé. Nous n'avons pas trop cherché à structurer cette rencontre. Donc c'était beaucoup plus une approche conviviale que nous avions imaginée, et je pense qu'effectivement elle correspond à la réalité du moment que nous partageons maintenant. Alors je vais vous lire quelques textes de moi, peut-être si certains voudraient avoir une vue un peu plus étendue de la poésie algérienne de langue française, d'expression française ou de graphie française, parce que c'est toute une problématique, qu'il y a autour de la langue, c'est-à-dire de la langue française, puisque la langue française a fait partie d'un fait historique qui a été la colonisation de l'Algérie. Et donc, ce fut aussi, ce fut peut-être au départ une violence qui a été faite aux autochtones, qui étaient pour la plupart de langue berbérophone ou arabophone, mais qui, au fur et à mesure de la colonisation, vont se saisir de cette langue pour exprimer avec les mots qui leur étaient au départ étrangers, exprimer, disons, leur identité, leurs aspirations, leur joie, leur douleur, etc. Je ne vais pas m'apesantir maintenant sur cet aspect, on pourra en parler tout à l'heure de façon plus vivante. Alors je vais vous lire quelques textes de moi. Moi je fais partie de cette génération de l'indépendance. Nous avons connu la guerre, mais nous l'avons connu avec les yeux d'enfants. J'ai fait partie de cette génération de l'indépendance qui s'est beaucoup investie dans un premier temps dans la poésie de langue française. Et il y a à côté une poésie de langue arabe et aussi de langue amazigh. Donc voilà, je vais vous lire quelques textes et ensuite on lui donnera la parole. Quelque chose a craqué dans le noir de tes yeux. Est-ce ton désir? Est-ce cette étoile impure qui te voue à l'errance? Est-ce un grain qui assure sa présence sous le sommeil de la neige? Quelque chose a craqué dans le noir de tes yeux. Quelque chose de dur qui naît à la douleur et qui n'est pas une réponse définitive aux postures lancinantes de notre attente. Quelque chose a craqué dans le noir de notre nuit, une branche de laurier échappée chose a craqué dans le noir de la mémoire, l'orgueil du feu assumé par des casbahs, l'amour faisant violence à deux mains. Quelque chose a craqué dans le noir des miroirs. Désormais, nous regarderons de toute la hauteur de notre nudité. Toi qui cherches le sens des mots, la beauté dans les lignes des mains et l'espoir dans les chiffres, tu iras par des chemins difficiles, des points et des onctus, des murs et des aiguilles. Tu iras par des chemins durs pour prouver que les mots ont souvent un sens, quand même toutes les mains ne sont pas habituées à les tenir. Tu iras par le sel et l'algue, par les chemins où l'homme tient sa peau si fragile comme un vieil étendard de désir. Tu iras par des chemins obscurs, de nuit en nuit, un peu plus délivré du poids de ta frayeur. Des hommes lèveront sur toi la main et la peur naîtra de tes propres certitudes. Toi qui cherches le sens de ta présence, tu aimeras longtemps avant de découvrir la violence de l'amour et les portes de la tendresse te seront longtemps interdites. Tu croiras parfois que ton désir est la dernière porte à ouvrir, mais longtemps encore, tu continueras à te chercher avant de t'ouvrir à la profonde parole qui t'attend à la dernière halte de ta faiblesse. Rien d'immortel, sinon l'absence dans la dérision des nuages, l'entaille définitivement, masque abruptement aux abattoirs du destin de péril. De périssables insolences sur toute l'étendue d'une morsure, alouette désemparée, paroles vite brandies, vite déliées, de moment en moment, d'horreur en imposture, de moment en moment, fils du soleil, dans vos appartements déchus, des débardeurs de l'aurore, des charges sur le dos. Une étrange chose qui rue et marque leur peau de bleu. Ils viennent vers vous. Où sont les morts? Les belles nervosités du corps, les fanfares musculaires et le repos agile de la paupière. Où sont les morts? Le sel, la nacre, les diodes, par-dessus l'étendue de leur ongle croisé, pareil à l'octave obsolète. Où sont les morts, maîtres des crépuscules, que de jour en captivité et que d'exil en marche, au centre de ton sommeil, une danse qui tue, les flamèches du soir, à la droite de la cruche mûre, et ses yeux qui brûlent, au fond de ton secret, au fond de l'étang gelé. Je prends place dans un royaume de plein d'œil et des délvés impunis. Ébranle mon monde, ébranle mon savoir, et que toute intelligence jaillisse de ton regard. Quand j'aurai fini de façonner mon baiser en sonate d'eau, mes os éclatement parmi les convulsions du chant. Tu te surprendras par un soir d'été accablé de liberté dans les réseaux du désordre. Peu importe les sarcasmes et les rires, ils nous ont devancés, les orages humains. De l'humanité, diode et le sel, les œufs dans les signes, des danses, tous les talismans inachevés, les fois aux alphabets, et ce grimoire séditieux que tu sais pour naviguer sur l'étendue d'un détournement d'étoiles. Et enfin, prolonger l'arbre et le fruit en cascade de calligraphie, en sourate de poussière. Ce soleil ne nous dit plus bonjour comme au jour de bonté dans cette immense arithmétique des cicatrices. L'arbre à peine élancé déjà transfuge de la nostalgie. Oui, oui, il faut se lever chaque matin à une heure humaine, mais à quelle humaine horloge expier les pétales calcinés. Plus tard, du choc de nos mains glacées, fusera l'ocre rêve d'aimer et nous n'assisterons plus au départ de nos derniers amis. Sur la peau des jours. Ah, la voix d'un chanteur, les mains sur le mandol mal, retrouvant les chemins de l'Andalousie, tandis que le vin à l'avenant coule par les ports des malandrins et que les ramiers convolent sous l'œil des censeurs. La rape des jours nivelle nos vies et nos amours. Le chèvrefeuille abrit le deuil de notre avenir. Dans le cercle s'épuise la flamme du danseur solitaire. Pourquoi, pourquoi, tant d'émoi en ce printemps gris? Dumas et ton andol et mon cœur comme une râpe, lisse mémoire et souvenir de râpe. Le vin du Minervois s'agite en vain. J'ai laissé mon cœur dans les roselières d'Aïntaïa et de Samar au diable. Il n'y a que les mimosas qui soient semblables et la langue comme une râpe va son chemin faisant dans les tréfonds de la mémoire et de ses sémois en ressac. Un roumain avec un accordéon au sortir de la FNAC, c'est comme un cliché. Une cigarette demandée en espéranto, on se tâte et l'on a presque honte de la donner sans l'offrir. Des clichés, il y en a plein la vie. Une vieille dame avec un cabas qui demande l'heure à Esquirol avant de prendre son bus. Fait-il froid aujourd'hui? Naguère, la neige étouffait les mimosas. Ah, mon bon monsieur, ils nous ont tellement bricolé le ciel. Les clichés, c'est comme la vie. Un tzigane roumain avec un accordéon, une vieille dame avec un cabas. Il arrive qu'on se parle par inadvertance, par impuissance. Ici, le soleil aussi, comme un soupir échappé d'une mémoire surnuméraire, comme articulé entre parenthèses par un dieu trop nourri qui caresse son ventre, encore tout ébahi par le miracle de ses orteils, un soleil enfariné comme un beau bébé de publicité dans les plis et les replis sont autant de pièges à l'œil empressés de surprendre ses secrets. Ici, le soleil étale ses promesses, comme un chasseur embusqué à la lisière de forêts giboyeuses, passe et repasse, volatiles, paisibles, rapaces désarmés, qui portent sur leurs ailes les reflets immuables des sabliers. Ici, le temps a toute l'éternité pour se reposer les siècles. D'ailleurs, il se mesure à l'épaisseur des murs, à la grosseur des habitacles divers que les hommes se sont érigés, tantôt pour conjurer leur frayeur, tantôt pour célébrer les fastes de leur soumission ou de leur révolte. Ici, le soleil n'est pas une marque de fabrique, une hérédité magnifique qui renvoie au jubilaire, aux spectres immémoriaux qui jettent encore la jeunesse à l'assaut de ses désespoirs dans les abysses des frontières. Cœurs et âmes dégainés contre elle-même, sa propre chair, comme une indicible âpre amertume dont elle a fondé ses signes adventices. Je dirais juste qu'ici, le ciel peut être un clavecin, tantôt subtil, tantôt sournois, percutant la terre à juste mesure, des palettes de nuances studieuses sur des toiles nubiles que des mains andalouses font accoucher d'une vigueur iconoclaste. Ici, le ciel continue à ordonner des orages en phrases à la Chateaubriand. Ici, le soleil et le ciel s'accordent comme un vieux couple lassé de trop de caresses et de connivences et peuvent de leur vivant s'acheter à crédit les apocalypses annoncées à la lune des journaux. De temps à autre, quelques numides y cèdent leur passion et parlent aux premiers passants d'un improbable nerval que l'on prend pour un dieu-dit d'Aquitaine et des chiens démons qui éperonnent leur songe et leur séance. Or, ici, le ciel et le soleil se reposent désormais des ténèbres et les chiens démons qui talonnent les solitudes et les séances. Ici, le ciel et le soleil se reposent dans le sacre de l'automne. Je referme ces feuillets sur une noyer, ni lys, ni nénuphar, ni cavalier pâle, ni vent de Norvège, ni le bel Arthur pour accompagner le cortège. Un simple numide ému du soudain malheur, un corps à l'eau enveloppé par un journal, un départ, une gare, un autobus, une jeune femme défrima dans une ville de soleil pour décrypter les secrets du cinéma. Un visage, un corps vif, inconnu, habitant sa jeunesse et son secret. Et voici le départ, la frontière, l'entrée dans le mystère, des bleus à l'âme, à la nuque, une âme erre en mer, le malheur, le désarroi d'une mère, c'est la noyée. Le port de la selva, un autre filmé au final à l'aurore d'une vie. Ophélia survécut aux faits divers, le grand Arthur fit cortège à son soudain malheur. À défaut, je referme ses feuillets sur l'énigme de Milan. genoux se succèdent à longs camps, ils balisent le crépuscule de nos envies, tels des chandeliers dans la pénombre, tels des peupliers par les chemins pluvieux, la prière à forme de pierre compacte, et le couchant va s'inclinant comme un courtisan dans les linges du ciel, si peu de nuages, si peu de serre, l'horizon incline les degrés de ses noisseurs, ici dans la boue de la mémoire, étincelée l'émeraude de l'utopie, des foules en vague, criées à tue-tête, la rage d'un soleil plus juste, ceinturée dans les sillons adverses, mon pays commencé à la mer et s'infinitisé au désert. Nos mères nous avaient parlé de chamelles, d'une cité nouvelle, pétrie dans le sable par les mains d'un prophète analphabète. Les pharisiens, roulant sous l'encens, se pavanent dans nos frêles jardins, nocturne destin des pucelles, si peu de sève dans les veines, si peu de rêve sur les lèvres. Une femme s'avance dans la danse des lames, j'avais pourtant cru dans ses alarmes. Si peu de vie, si peu de rêve, frère le gerbe comme dédié sous les gammes de Shostakovich et Mimosa frémissent. Il se leva, fixa le miroir, ajusta son âme, mit les voiles sur l'île de sa mémoire. Il était jeune, entre minuit et l'aube, s'habillé de jasmin et s'enivré d'eau de rose, puis il entra dans le miroir par effraction et se trouva soudain vieilli, la langue fouchue. Il avait pourtant tant aimé les mouettes sur les écumes, au-devant des mouettes. Il pensait que c'était la meilleure métaphore du destin. Il avait oublié la loi du pain, la force du désir, la forme du blasphème dans une feuille d'automne. Il se trompait. Et pourtant il frayait avec le feu du nombre, sous la pluie et le nombre. Comment conjurer le hasard, les mimosas criards? Ah, combien de tristes poèmes et de silences multipliés parfois le mot, l'effroi de la langue, un mot par-dessus le toit d'une rencontre, comme une lame dans la chair de l'autre. Les mots comme des fagots peuvent brûler ou irradier, une phrase comme le vent peut effacer la calligraphie du sable. Seule la mer infiniment essaye de rattraper les erreurs, les algues attestent des passions malvenues. Le jour se lève quand l'autre ouvre ses draps, l'effroi et soudain un grand froid dans la mémoire. Périront de froid les cités et les peuples qui interdisent aux peupliers de s'incliner devant les passants de l'aurore. Parfois le mot comme un couteau s'aiguise à la chimère, la mesure fait le fruit et la tendresse d'un songe. Peu de vent et guère de marée pour lever la voile droit sur le néant, partager l'orange et ouvrir son cœur par naufrage guetté. Il faut fermer avant l'averse, le vent et à la margelle du pli, fin de l'indifférence, que d'ombre et de malentendu. Au soleil, le merle noir mitant du matin, son aile dans son champ brisé. J'ai désiré les mots à l'image de mes amitiés et des soirs bavards qui aident les hommes à comprendre les oiseaux, la sève des arbres. J'ai creusé les mots dans l'alphabet de la neige afin qu'ils ne soient pas définitifs. permis. Le soleil va agitant la poudre de ses bannières, les mimosas languides, et voici le son de la saison, les amandiers têtus. De combien de narcisses se monnaient des regrets. Soudain, un joueur de mandole se prend pour lui. La poésie déambule ses énigmes dans la cour d'herbe roi et succombe à son reflet de pont. Le joueur de mandole s'épuise dans sa acida, splendeur nostalgique du soleil, rumeur, jardin, passion, frémissant sous les mains imperceptibles de leurs amants. Enfin, vainqueur ou cabot, un palmier stérile a poussé dans la cour des rois. Tac, s'épuise d'attente, un joueur de mandole se prend pour Ulysse, qui succombe le pan, le poète. Et tac, tout passe, le poème s'élance, s'arrase, culbute, dans les parois de la brume des mots. Itac est là, ailleurs, dans l'infini de la mémoire. Le poème se tord comme un mouchoir sur un quai de gare. Tout passe, un train après l'autre, un temps sur l'autre. Souvenir à saute-mouton, qui de Cimera ou d'Itac abritera le poème dérisoire de ta vie. Poème voué au cabotinage, au large du mouvement perpétuel des simagrées. Quand se posant à nouveau les cigognes sur le village marin qui s'effrite au vent d'est, là un joueur de mandole se prend pour Ulysse. Le Messie des Acacias. Et l'on meurt soudain dans les escaliers d'une marche escamotée, comme d'un couteau surgi du Liran, de la main d'un voisin avec lequel on jouait au domino. Mon frère n'était ni poète ni technologue, un simple vivant qui luttait contre les glaucomes et la nuit qu'il avait saisie dans ses prunelles toute mémoire. Il apprivoisait le destin d'une mauvaise lune maison au cerveau légué par un arbre enceinte, et portait sans connaître le cubisme le masque mortel de Picasso. Une marche escamotée dans un escalier ténébreux, dans une HLM déglinguée, a suffi pour qu'il chute dans le monde parallèle qu'il habitait. Mon frère n'était ni poète ni technologue, un simple vivant qui s'asseyait sur une borne de la maison livide et croyait au Messie. Il croyait au Messie, au Mehdi attendu, le bien nommé, sur son noir étalon aux naseaux fumants, de retour de son occultation multiséculaire, piaffant dans la poussière des sacs en plastique. Le Messie, qui doit, murmure-t-on, rendre justice aux petites gens et faire fondre la graisse des puissants du jour. Mon frère n'était ni poète, ni technologue, encore moins un devin. Il faisait chaud ce jour de juin. Il est allé au bain mort, il s'est désaltéré juste avant de glisser sur la marche escamotée. Il est parti, bien avant le retour du Mehdi. Ce dernier avait trop tardé, trop de poussière, trop de sachets noirs, de détritus, d'acacias tordus, meurtris, de serments lénifiants dans la torpeur de la cité divine. C'est ainsi que l'on meurt dans mon pays, tout simplement en prenant l'escalier, mon frère et c'est ainsi que vont les vies des scouts.
Peut-être que vous pourriez un peu nous parler de l'écriture elle-même, de la poésie.
Un dernier pour la route.
Parce que la poésie, c'est quand même complexe.
Avec un bruit de fond.
Avec le frigo, ça, c'est des fois un peu perdant.
En pensant à un peu à tous les malheurs qu'il y a partout, le monde, où il n'est plus question que de vos corps allongés face à la mer comme des rames ayant bien servi. Ruissant des rumeurs de leur peine, où il n'est plus question que de vos corps étirés face à la mer, après avoir bien servi, après avoir bien saigné, où il n'est plus question que de vos corps ouverts à la mer, comme des fruits de mer décolorés, où il n'est plus question que de vos corps déchiquetés face à la mer, comme les lambeaux d'un touchon corrompu, où il n'est plus question que de vos corps trahis face à la mer comme des messages foudroyés, où il n'est plus question que de vos corps face à la mer. Bernard, tu voulais...
Oui, je t'ai coupé à la mer. Non, mais c'était très bien. C'était parce que j'ai le frigo, j'entends pas toujours très bien. Donc voilà, ce que je voulais te demander, c'était d'abord si tu écrivais des poèmes dans les deux langues.
Hein? Ouais. Malheureusement, non.
Non, qu'en français?
J'écris qu'en français, puisque j'ai fait partie de cette génération qui est allée à l'école uniquement en français. On a appris sur le tard l'arabe. Non, mais il y avait ce qu'on appelait les écoles coraniques. Les écoles coraniques où on allait apprendre la récitation. Donc on apprenait à, malheureusement, il n'y avait pas de pédagogie assez efficace. On apprenait à répéter les versets, les sourates. Et on n'avait pas à côté, on avait l'école toute la journée, il fallait se lever très tôt, donc aller vers 6h du matin à l'école coranique, ensuite à 8h être à l'école laïque et républicaine, comme on disait. Mais il y avait quand même en Algérie deux types d'écoles. Ils étaient même on disait l'école A et l'école B. Dans la réalité, donc, il y avait des écoles pour les indigènes, mais il y avait des écoles aussi où on pouvait... on va pas s'étaler sur cette question. Donc, et puis, la langue, c'est aussi une rencontre, une fascination, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que peut-être, comme disait François Fanon, on avait intériorisé ce complexe de colonisé à l'époque. Nous, on était jeunes, mais de façon inconsciente, nous avons intériorisé. On n'appréciait peut-être pas à sa juste valeur notre culture d'origine. Et c'est vrai. Et donc, on était, comment dirais-je, on était ébloui par cette langue, parce qu'on n'avait pas assez progressé dans l'apprentissage de l'arabe. C'est bien plus tard, à l'indépendance, mais c'était trop tard pour ma génération. Donc on a pu découvrir la grammaire, la philosophie, la littérature, tout ça à l'école coranique. On ne fait que mémoriser le texte coranique. Bon, mais pour certains historiens, certains sociologues algériens, ils ont dit que c'était aussi quand même une forme de résistance à la colonisation, valait ce qu'elle valait, mais ça fait partie de la personne, de la construction, de la sauvegarde d'une personnalité. Mais en même temps, la langue française nous permettait, quand on sait que, par exemple, Rimbaud en arabe a été traduit il n'y a pas très longtemps. Bon, au Moyen-Orient, comme eux connaissaient la langue anglaise, ils pouvaient accéder à Rimbaud, c'était déjà traduit en anglais. Mais en arabe, ce n'était pas traduit, donc c'est très tardivement qu'on a pu. Alors, en français, on découvrait la littérature, la culture universelle, on pouvait prendre connaissance de la poésie japonaise, coréenne, roumaine. C'est extraordinaire le travail qui est fait par les traducteurs. Ils permettent. Donc, peut-être par paresse, peut-être pas. Ma génération n'a pas peut-être fourni les efforts qu'il fallait. Contrairement à ce qui a été prédit par certains, disons, observateurs, je pensais qu'après l'indépendance, la langue française progressivement allait disparaître du paysage. Or, il n'en est rien. Vous voyez le nombre de gens qui écrivent, des gens du Maghreb, de façon générale, et en particulier d'Algérie, qui écrivent en français. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus connus pour les romans. C'est le roman qui a pris le dessus sur la poésie, mais pendant longtemps, la poésie, en particulier de langue française, d'expression française, ou de graphie française, comme le disait un certain poète qui s'appelait Jean Sénac, qui était d'origine européenne, mais qui était, habité par l'algérianité, qui a pris fait et cause pour les Algériens, et qui disait que cette poésie, lui-même était poète, était de graphie française, mais elle avait une singularité. Elle était écrite en français, mais il y avait quelque chose de spécifique. Bon, c'est des débats qui ont parfois abouti à des controverses, et même des fractures dans la société. La langue française, il était de façon un peu trop rapide, était qualifiée la langue de la colonisation. Or, une langue, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait dit il y a très longtemps, la langue, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et il me disait, écoute, à l'époque, hein, ça fait loin, comment il s'appelle, Franco parle en espagnol, en castillan, Fidel Castro parle aussi en castillan, mais ils ne disent pas la même chose. Il y a longtemps de ça. Grâce à l'utilisation de cette langue, les écrivains, les poètes algériens qui la maîtrisaient ont pu s'adresser à l'autre. Et comme a dit un grand poète marocain, Abdelatif Dabi, il a dit que ça a permis d'établir les cahiers de doléances comme ce le fut pour la Révolution française en 1789, où les Français ont pu écrire leurs doléances et donc faire à arrivé. Et justement, ça a participé du combat de la décolonisation. Et c'était surtout de la poésie. Et parmi ces poètes qui ont utilisé la langue française, il y a de nombreux Algériens d'origine européenne, des femmes. Je citerai Anna Gricchi. Anna Gricchi, une grande poétesse algérienne qui a été condamnée à prison, la cause algérienne. Et donc, la poésie, disons, grosso modo, elle a, à partir de poésie algérienne, avec Jean El Mourouf Abrouche, à partir des années 30, jusqu'aux années 70, elle a occupé un terrain très important. Mais au fur et à mesure, bien sûr, la poésie, comme dans beaucoup de pays dans le monde, n'a plus eu cette prégnance, cette vitalité dans la vie de tous les jours. Voilà, peut-être dépassé un peu.
Si bien que du jour au lendemain, en 73, entre 73 et 77, du jour au lendemain, décrochage scolaire, puisque nous, élèves, on est passé de la du français, école français et l'arabe, sur exclusivement l'arabe. Ça a été une déchirure, une fissure considérable pour beaucoup d'étudiants.
C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y avait au départ des slogans politiques qui paraissaient justifiés, mais au fur et à mesure, ils ont montré leurs limites et leur inanité. Par exemple, on a parlé d'arabisation. C'est-à-dire, au début, on a parlé de récupération de la langue nationale. Parce que tout, ce qui n'est pas faux, il faut une langue nationale pour que les différentes composantes d'une nation puissent communiquer entre elles. Ensuite, on a parlé tout court d'arabisation. Et là, à la différence de ce qui s'était fait en Tunisie, par exemple, il y a eu en Tunisie une option claire et nette sur Bourguiba, hein, après l'indépendance, du bilinguisme. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir une langue étrangère qui peut être un instrument, un trait d'union, d'échange, pas uniquement au niveau des idées, mais même au niveau de l'économie, de la technique, etc. Alors, bien entendu, il y a toujours, comment on appelle ça, le sectarisme des représentations idéologiques qui vont amener à un activisme politique, etc. Et en fonction des moments historiques, il y a des dérives. Donc on a commencé, à partir d'un certain moment, on a voulu, il y avait des classes bilingues, on les a arabisées totalement. Parce qu'il y avait aussi des problèmes de contraintes objectives. Il faut des enseignants,
surtout... La pédagogie,
Et donc les sciences étaient enseignées pendant longtemps en français. Continuer à être enseigné, mais en arabisant le primaire, encore que le français était enseigné, si je ne me trompe pas, en troisième année de primaire. Mais malheureusement, sérieusement les capacités, parce qu'il y a eu parallèlement aussi à ça, ce qu'on a appelé une démocratisation de la scolarisation. C'est des millions et des millions de jeunes et de jeunes filles qui ont pu accéder à l'école. Et donc, tout ça a fait que, finalement, pour vous dire un peu où on en est, on a commencé à parler au début des années 80 des analphabètes bilingues, c'est-à-dire on a parlé d'analphabètes bilingues, ils ne sont ni c'est un peu à la raccourci, hein. Donc alors il y a eu des moments où sous la pression des luttes, parce qu'il y avait quand même des mouvements des jeunes qui se mobilisaient, des forces politiques qui disaient on va vers le mur sur cette question, on est revenu pour un certain temps un ministre qui était un historien, un sociologue, et qui était un homme de lettres, mais le mal était déjà fait. Donc, et maintenant, bien sûr, il y a aussi la revendication de la langue amazigh. Il y a une grande aspiration. Il y avait une grande aspiration. Mais là, il fallait... Donc, finalement, la victime désignée, ce fut, à travers cette politique un peu, disons, sectaire, ce fut et la langue arabe et la langue berbère. Et donc, bien sûr, la petite bourgeoisie algérienne qui avait les moyens, quand même, a pu inscrire ses enfants dans ce qu'on appelait le lycée français, maintenant, ça s'appelait Descartes à l'époque. Hein. Maintenant, c'est un lycée international, etc. Même de grands idéologues de cette arabisation, on a fini par découvrir qu'ils envoyaient leurs enfants étudier en France. Bon, voilà. Dans tout ça, et la poésie, et la littérature, donc il va y avoir quand même, dans les années 70, une nouvelle génération de poètes qui, elle, va écrire une poésie de contestation et de dénonciation. Je vous dirai un poème. Célébrer les massacres, arrêtez de célébrer des noms, arrêtez de célébrer les fantômes, arrêtez de célébrer les dates, arrêtez de célébrer l'histoire, la jeunesse trop jeune à votre goût, insouciante et consciente, c'est depuis longtemps que vous battez le rappel des souvenirs, le soldat inconnu, le mausolée de X, le machin de Y, le cimetière de Z, depuis le temps que vous écrivez les jours du calendrier avec du sang coagulé, délayé par les circonstances de la circonstance, se sont coagulés, venin de la haine, venin de la haine, levain du racisme. Je suis né en Allemagne nazie, et moi en Amérique noire, et moi en Afrique basanée, et moi je suis pied noir, et moi juif, et moi on m'appelait Bico. On en a marre de vos histoires et vos idées. Elles rebuteraient tous les rats écumeurs de poubelle. Elles n'oublient jamais la jeunesse, malgré sa grande jeunesse, mais elle a horreur des horreurs. Et les enfants d'aujourd'hui et ceux qui naîtront demain ne vous demandent rien. Laissez-nous vivre en paix sur cet îlot de l'univers, seul patrie. Il faut dire que Ahmed Askar était quelqu'un qui a vécu pendant longtemps en France, c'est un peu le temps de cette poésie qui va dominer durant les années 70, mais elle ne sera pas éditée, c'est-à-dire c'était des publications rendues typées ou publiées ici en France ou au Canada. Donc il y a eu cette période depuis, à partir des années 80, là, disons c'est le roman qui a pris de l'ampleur, qui a supplanté la poésie, mais dernièrement, travaillant à une nouvelle édition d'une anthologie algérienne de graphie française, j'ai repris sciemment l'expression de Jean Sénac, qui parlait de graphie française, j'ai pu découvrir qu'il y avait beaucoup de jeunes qui écrivaient de la poésie encore, de la poésie en français, parce que 50 ans se sont écoulés, donc l'appareil scolaire a été totalement ravisé, qu'il y avait parmi ces poètes beaucoup de jeunes filles qui écrivaient une poésie aussi assez virulente, assez engagée sur la condition de la femme, etc.
Vous parlez arabe quand même.
Oui.
Et vous pensez arabe. Vous rêvez arabe. Parce que voilà, la difficulté.
Enfin, c'est une question très importante.
Si vous écrivez en français, est-ce que vous pensez?
Est-ce que je rêve? Peut-être que oui. Parce que comme je maîtrise davantage l'arabe populaire, hein, c'est un arabe ce qu'on appelle l'arabe dialectal, comme dans toutes les langues dialectales, le problème des concepts, c'est des langues usuelles. Hein, usuelles. Et donc, qui permettent, fonctionnelles. Mais dès qu'on passe au traitement de concept, malheureusement, on est obligé de chercher un support plus élaboré. Il existe en langue, bien sûr, en langue, la langue, je sais pas, comment on peut l'appeler, la langue classique. L'arabe littéraire, il y a des concepts qui ont été développés parce que quand même cette langue, le monde, l'Occident a parlé arabe, il ne faut pas oublier, c'est une manière, pas parler, mais il était obligé de passer par l'arabe parce que lorsque les Arabes étaient au plus fort de leur connaissance, de leur développement civilisationnel, ils avaient sauvegardé et traduit tout l'héritage hellénique, persan, hindou, etc., dans les sciences. Et donc, en Occident, était obligé de passer, au Moyen-Âge, de passer par l'arabe. Donc, c'est pas. Mais, c'est-à-dire, il y a eu des polémiques. Hein. Il y a eu des polémiques et des positions différentes, y compris parmi les écrivains. Il y a quelqu'un, un grand poète algérien franco-français, qui avait publié pas mal de romans en France, de recueils, qui s'appelle Mercader. Il a dit, à partir d'un certain moment, la langue française est mon exil. Et comme quoi il arrêtait d'écrire en français. Enfin, dans la réalité, ce n'était pas vrai, pareil que, parce qu'il est mort assez précocement. Il a continué à écrire, mais il ne publiait pas. Alors, donc ça a été une pompe de discorde, cette question de la langue, hein, pour comprendre. C'est parti de la langue, c'est-à-dire quelle langue, au début, y a-t-il une culture nationale avec une langue étrangère? À l'époque, ça paraissait un peu impossible. Mais en réfléchissant, c'est-à-dire si on prenait en compte la pluralité de l'Algérie, parce que c'est un pays, l'Algérie a connu le passage de. Il y a eu les Romains, les Byzantins, et il y a eu de grands écrivains. L'Algérie, le Maghreb, de toute façon, le Maghreb historique, a donné, par exemple, quelqu'un comme Saint-Augustin. Saint-Augustin est algérien. Donc, en fait, c'est des querelles idéologiques, parce que le réalisme pousse à ce qu'on utilise toutes les richesses, toutes les possibilités d'expression dont dispose un peuple.
Oui, derrière ma question, c'était est-ce que quand vous écrivez français, vous pensez français entièrement ou c'est mélangé avec vos autres langues ou...
Je lisais hier, pas plus tard qu'hier, ce qu'a dit un grand romancier algérien qui s'appelle Mohamed Dib, dont les œuvres ont été publiées au Seuil, etc. On avait même parlé de lui à un certain moment pour le Nobel. Il n'a jamais eu. Jusqu'à présent, il y a un seul écrivain du monde arabe qui a eu le Nobel. C'est Najib Mahfouz, un Égyptien. Donc, il disait, carrément, c'est un poète, un grand poète, un immense poète et un immense romancier, puisque pratiquement, c'est lui le père, on peut le considérer comme le père fondateur de la littérature algérienne. Il disait que pensait en arabe. Pensait en arabe et en même temps, il n'avait pas de problème avec la langue française. Et qu'il a, au fur et à mesure, dans cette interaction, créé sa propre langue littéraire et poétique. C'est-à-dire, parce que une littérature, c'est pas une affaire uniquement d'alphabet, c'est aussi un problème de contenu, de profondeur, de la pensée. français. Voilà. Est-ce que on sait dans quelle langue on va être? Je ne sais pas.
D'autres questions ou après c'est le moment de boire un coup, mais
je voudrais dire un poème de cette grande dame Anna Gréki, hein. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à le vendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber et descendre. À force de coups de cœur, à force de rage, la seule façon loyale qui me ménage, une route réfléchie au bord du naufrage, avec son pesant d'or et de joie et de détresse, s'élève ta bouche à ma vie de richesse. De quel droit exiger, par exemple, du jasmin qu'il soit plus que parfum, étoile, plus que fleur? De quel droit exiger que le corps qui m'étreint plante en moi sa douceur à jamais, et que je te sois cher parce que je t'aimais, plus souvent qu'à mon tour, parce que je suis jeune, je jette l'encre dans ma mémoire et j'ai peur quand de mes amis l'ombre me descend au cœur, quand de mes amis absents je vois le visage qui s'ouvre à la place de mes yeux, je suis jeune, ce qui n'est pas une excuse, mais un devoir exigeant, un devoir poignant, à ne pas croire qu'il fasse si doux ce soir, au bord de la plage, prise au défaut de ton épaule, à ne pas croire. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, à la saignée des bras, les oiseaux viennent voir. Pour comprendre, je vous ai lu des extraits. Pour comprendre ce poème, il faut savoir que Anna, là, elle s'adresse à son fiancé, à Inès, qui, donc avec lequel elle militait pour la cause de l'indépendance algérienne et qui a été massacré, tué, etc. Donc,